La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Ce bonjour
matin,
Guillaume.
Un autre monde est-il possible?
Oui, il est le tout premier visiteur venu d'un autre monde qu'il nous a été donné de voir jusqu'à présent. Un mystérieux rocher long et mince que The Los Angeles Times compare à un cigare. Quand le magazine Newsweek y voit lui davantage une sorte de bâton géant de ceux que l'on pourrait lancer à son chien lors de sa promenade, si toutefois celui-ci s'égayait dans un parc aussi vaste que le cosmos. Cet astéroïde baptisé Oumuamua, qui signifie messager en langue hawaïenne, mesure 400 mètres de long sur une quarantaine de large et se déplace à une vitesse de 38 km par seconde. Il a été repéré le 19 octobre dernier, aussitôt tous les télescopes de la planète ont été braqués sur lui pour en déterminer les caractéristiques, et les premières conclusions viennent donc d'être publiées cette semaine dans la très sérieuse revue Nature. Tout d'abord, les scientifiques en sont convaincus, Oumuamua est bien un astéroïde extrastellaire, car l'analyse des données recueillies montre que son orbite ne peut pas avoir son origine à l'intérieur de notre système solaire. Ou dit autrement, c'est la première fois que des scientifiques ont l'occasion d'examiner de près un morceau de matériau provenant d'un autre monde. Ensuite, les dernières analyses montrent que cet étrange visiteur est assez similaire en réalité aux comètes et aux astéroïdes de notre propre système. Or, les astéroïdes étant comme des fossiles spatiaux, cela signifie que d'autres planètes composées comme la nôtre pourraient être présentes dans la galaxie, précise The Guardian. D'autre part, sa couleur rouge suggère qu'il transporte des molécules organiques qui sont des éléments constitutifs de la vie. Enfin, le magazine Newsweek rapporte une dernière découverte. Oumuamua se déplace beaucoup plus rapidement que les astéroïdes à l'intérieur de notre système solaire, ce qui signifie que si par un coup de malchance il devait frapper la Terre, la collision serait plus violente que les impacts précédents comme celle qui a anéanti les dinosaures.
Et lui, en revanche, Thomas, a disparu des radars il y a une semaine et reste toujours jusqu'à présent introuvable.
Oui, lui, c'est le sous-marin argentin San Juan. Il n'a plus émis de signaux depuis le 15 novembre. Ce jour-là, à 7h30 du matin, il avait été localisé au large de la Patagonie et depuis, aucun contact n'a pu être établi. On ignore toujours les raisons qui ont conduit à la disparition du sous-marin, mais pour la première fois, l'armée argentine a reconnu cette semaine que le bâtiment avait souffert d'avaries, probablement un court-circuit ponctuel dans les batteries, peut-on lire dans le quotidien La Nación. De son côté, son confrère Clarín révèle ce matin que deux sources proches des opérations lui ont rapporté qu'un nouveau signal a été détecté hier, à partir duquel un nouveau périmètre de recherche a été établi dans l'Atlantique Sud, mais l'information n'a pas encore été confirmée officiellement. Seule certitude, les jours et même les heures désormais sont comptés. En immersion complète, sans renouvellement de l'air, les réserves d'oxygène ne permettent de survivre que durant 7 jours. Or, cela fait précisément 7 jours aujourd'hui qu'on est sans nouvelles du sous-marin.
Et un autre mystère ce matin est en partie élucidé.
Oui, l'agence russe de météorologie a reconnu cette semaine qu'une concentration extrêmement élevée de ruthénium-106, 1000 fois supérieure à la normale, avait été détectée fin septembre dans plusieurs régions de Russie avant que le nuage radioactif ne se fixe fin septembre dans tous les pays européens, de l'Italie jusqu'au nord de l'Europe. Une information qui vient donc confirmer les rapports de plusieurs réseaux européens de surveillance de la radioactivité. En revanche, hier, le conglomérat public russe Rosatom a assuré, lui, n'avoir enregistré aucun incident ni panne sur ses installations nucléaire. En d'autres termes, précise le correspondant du Temps, après plusieurs semaines de déni, la Russie reconnaît à présent à demi-mot être à l'origine de la pollution radioactive détectée dans toute l'Europe, mais continue à dissimuler la source et la raison exacte de cette fuite de ruthénium-106. Alors on se rassurera tant bien que mal en se rapportant à l'avis des experts occidentaux qui tous s'accordent à dire que les doses ne présentent apparemment pas de danger ni pour l'homme ni pour l'environnement. Toujours est-il que près de 30 ans après Tchernobyl, rapporte The Washington Post, l'annonce d'hier soulève de nouvelles questions quant à l'engagement de la Russie en faveur de la transparence sur les questions nucléaires, mais aussi la question de savoir si les autorités ont traité de manière adéquate ce dernier incident.
Et après le nuage radioactif, le nuage nucléaire.
Oui, s'est-on jamais demandé quelles étaient les conséquences sur les populations des 6 tests nucléaires menés depuis 2006 par la Corée du Nord, interroge Die Tageszeitung. Le correspondant du quotidien berlinois rapporte que le ministère sud-coréen examine actuellement 30 réfugiés nord-coréens, originaires de la région où ont été menés justement ces tests, pour voir s'ils ont été contaminés par des rayonnements radioactifs. Selon un porte-parole du ministère, les résultats de ces examens seront disponibles d'ici la fin de l'année, mais les indices d'une catastrophe sont déjà là, note le journal. Des témoignages font état de divers dégâts environnementaux, de malformations chez des nouveau-nés, de maux inexpliqués, mais aussi de cas de leucémie. Puis après avoir de nouveau placé la Corée du Nord parmi les États considérés comme soutenant le terrorisme, on notera que Washington a annoncé hier de nouvelles sanctions ciblées contre les entreprises nord-coréennes, mais aussi chinoises. En revanche, on attend toujours de possibles sanctions contre la firme américaine Apple, laquelle délocalise en Chine sa production de smartphones. Un article du Financial Times, repéré par le magazine Slate, nous apprend que plusieurs lycéennes chinoises âgées de 17 à 19 ans ont été employées de force sous couvert de stage pour la production de l'iPhone X afin de répondre à la forte demande provoquée par le dernier nez d'Apple. Six lycéennes disent avoir effectué des journées de 11 heures en moyenne contre leur gré dans une usine de Zhengzhou. L'une d'entre elles confie notamment avoir assemblé jusqu'à 1200 caméras d'iPhone par jour.